Dans la deuxième partie de cet exposé, je vais vous parler de la prière communautaire et notamment de la messe, sommet de notre rencontre avec le Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, car elles sont venues les noces de l'agneau, son épouse pour lui s'est faite belle. Alléluia. Chaque messe, en effet, mes chers amis, est une rencontre nuptiale entre le Christ et l'Église, son épouse. Une rencontre en deux temps. Dans un premier temps, la liturgie de la parole, c'est une espèce de cantate d'amour entre le Christ et son Église. Le Christ rappelle à son Église un certain nombre de déclarations d'amour qui se trouvent une fois pour toutes dans la Bible, et l'épouse répond son admiration pour son époux. Dieu parle, nous lui répondons. Vous savez d'ailleurs que cette structure de la première partie de la messe vient directement de la synagogue où il y avait alternance entre proclamation de la parole de Dieu et chant des psaumes. Dans un deuxième temps, l'oratoire devient en quelque sorte salle du sacrifice et laboratoire, bloc opératoire. Le Christ empoigne son épouse et l'emporte avec lui, par lui et en lui, dans le sacrifice de louange qu'il ne cesse d'offrir à son Père dans l'élan de l'Esprit-Saint. Ce soir, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire tout un exposé sur la messe. Vous avez tellement d'autres occasions d'en entendre parler. Mais je voudrais répondre à une question qui est souvent posée, à une difficulté souvent rencontrée. Des chrétiens avouent prier difficilement au cours d'une célébration communautaire. Il leur semble que la présence des autres, le déroulement de la cérémonie et l'attention qu'ils prêtent aux lectures et aux chants les empêchent de se livrer à un véritable cœur avec Dieu. N'allons pas dire trop vite que ces chrétiens sont individualistes, car les saints eux-mêmes ont avoué la même difficulté. Thérèse d'Avila, par exemple, reconnaissait qu'elle priait plus facilement les versets d'un psaume quand ils étaient psalmodiés par le cœur dont elle ne faisait pas partie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a alternance des versets dans la psalmodie. Ce n'est pas seulement pour que l'on puisse se reposer, c'est que vous l'avez sans doute déjà expérimenté, lorsque les autres chantent, on prie mieux parfois. Et Marie de l'Incarnation raconte l'habitude qu'elle avait contractée dans sa jeunesse d'aller prier à l'église en s'y retirant dans un lieu écarté pour n'être point vue. Certes, elle aimait aussi beaucoup participer aux grandes cérémonies célébrées dans les églises de Tours, mais, ajoute-t-elle, « toute mon occupation était dans l'intérieur, touchant ce que je voyais et entendais. » Comment donc faire de nos messes le sommet de notre rencontre avec le Christ? Pour y participer avec fruit, il ne suffit pas de s'y être préparé de façon lointaine par la pratique de la prière quotidienne. Il faut aussi aborder cette rencontre comme on commence toute oraison. Donc, je voudrais vous donner ici quelques conseils très simples pour que votre prière au cours de toutes les liturgies auxquelles vous participez soit meilleure. Premièrement, participer à toutes ces liturgies avec la conviction que vous en avez le droit, que ce n'est pas du temps volé aux autres, que vous avez le droit de faire la fête avec le Seigneur, que la fête est un sommet de votre vie. C'est aussi important que ce que je vous disais dans la première conférence, la rencontre quotidienne avec Dieu est un luxe peut-être, mais un luxe auquel vous avez droit. Seulement cette dimension festive de la messe ne doit pas empêcher la rencontre d'un chacun avec le Seigneur. Lorsque nous sommes noyés dans une grande foule, il est exaltant de penser que le Seigneur veut adresser à chacun de ses enfants un message absolument personnel. Et si nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour mettre en œuvre le progrès liturgique qui s'est développé dans l'Église depuis une cinquantaine d'années, bien avant le Concile, entre les deux guerres, sous des influences diverses. Je pense par exemple au père Doncœur qui a été l'un des premiers à faire réciter les prières au bas de l'autel par ses scouts routiers au cours des messes en plein air. Eh bien, si nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour que nos liturgies communautaires soient plus vivantes, il ne faut pas oublier que le sommet de la liturgie, c'est le silence. Que le sommet de la liturgie, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Donc Rabon le dit d'une façon excellente. En ce qui concerne la prière, dit-il, cela peut paraître paradoxal que ce soit un bénédictin qui le dise. Je dirais que la liturgie est seconde. Bien sûr, c'est la première œuvre, comme dit saint Benoît, que rien ne soit préféré à l'œuvre de Dieu. Mais cette prière silencieuse qu'est l'oraison, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'économie du rite qui est nécessaire, mais il est second, à sa place. Et il dit un petit peu plus loin, « Nous sommes dans une situation délicate, nous autres bénédictins, parce que à un moment donné et encore maintenant, l'importance de la communauté étant ce qu'elle est, la liturgie prend une certaine ampleur, et Dieu sait si elle a une certaine ampleur, au bec et loin, une valeur d'extériorité. Mais, si l'on n'y fait pas attention, on peut trop s'y arrêter. Une liturgie doit aboutir au silence. Toute proportion gardée, il en est de la liturgie comme de la musique. Ce qu'un musicien peut recevoir de plus beau à la fin d'un concert, c'est un silence. » Un suspense de souffle et des mains. Ce n'est pas pour rien que la musique est l'art qui ménage le plus la dépossession. Donc, participer à nos liturgies avec la conscience que c'est un luxe auquel nous avons droit, mais avec le souci de préserver cette dimension intérieure que la liturgie doit développer, encourager, nourrir. Deuxièmement, se mettre toujours dans des conditions qui favorisent une rencontre profonde avec Dieu. Vous avez tout à fait le droit de choisir un lieu de culte qui vous aide à vraiment prier. Les uns sont plus sensibles à la qualité de l'accueil, les autres à la qualité des chants, d'autres encore à la teneur des sermons et au fait qu'ils ne soient pas trop longs. Vous connaissez les trois qualités d'un bon sermon, hein ? C'est d'être court, bref et pas long. C'est comme cela que j'ai été moi-même appris par mon curé. Une chose est certaine, il n'est pas bon de papillonner indéfiniment de paroisse en paroisse en quête de la meilleure liturgie à consommer, c'est évident. Mais surtout dans les grandes villes, il est normal que nous préférions tel type de messe à tel autre. Donc, nous avons tout à fait le droit de choisir un lieu, une heure qui nous convienne davantage. J'insiste aussi sur le fait qu'il est très important, au début de n'importe quelle liturgie, de prendre un très bon départ. Je l'ai déjà dit dans la première causerie, mais j'y reviens tellement c'est important. Quand vous arrivez dans une église pour participer à une liturgie, tâchez d'y arriver bien à l'heure pour mettre tout de suite le contact entre vous et le Seigneur. Au lieu de vous contenter de regarder si le bouquet est bien fait, si l'église est bien nettoyée, quelle est la personne qui va faire la première lecture, la deuxième lecture, voyez, au lieu de, ou bien de vous interroger sur l'âge moyen des participants, au lieu de jouer au sociologue ou au journaliste qui fait une enquête, vous fermez les yeux quelques instants et vous dites, Seigneur, dire que tu vas m'accueillir, que tu vas me parler, que tu as un message personnel à me donner. Vous établissez bien le contact entre votre moi le plus profond et le Seigneur en train de vous regarder. Alors ensuite, vous pouvez rouvrir les yeux et tout deviendra prière. Seigneur, il est vraiment beau ce bouquet de fleurs. Seigneur, cette personne a vraiment un accoutrement bizarre pour faire la première lecture. Vraiment, je ne me serais pas habillé comme cela, mais qu'importe. Ce prêtre parle un peu trop longuement. Ce n'est pas comme ça que je ferai le premier point, je le mettrai plutôt après le deuxième point. Vous savez, les prêtres ils sont eux-mêmes très critiques quand ils écoutent leurs confrères. Mais il y a toute une façon d'écouter le sermon en se disant « c'est peut-être mal dit, mais finalement, qu'est-ce que tu as raison, qu'est-ce que je devrais le vivre ?» Au lieu de vous passer, de perdre votre temps à noter sur 20 la personne qui parle, vous pouvez écouter le Seigneur vous adresser le message. tout en ayant votre esprit critique, en disant elle devrait quand même prendre quelques leçons pour faire ses liaisons d'une façon meilleure, etc. Bon. Je crois qu'il y a tout un art de profiter de n'importe quelle liturgie pour écouter le Seigneur et vous laisser remplir de sa parole son esprit. Et deuxièmement, vous devez toujours faire un acte de volonté bien précis au début d'une liturgie. Seigneur, je ne viens pas pour recevoir des émotions sentimentales ou mystiques, pour éprouver des sensations spirituelles, pour recevoir avec gourmandise des émotions religieuses. Je viens pour te faire plaisir, Seigneur. Car dans toute liturgie, c'est toi le plus heureux. Quand vous écoutez le Salve Regina, chanté par une communauté de trappistes ou de trappistines, bien sûr, surtout si c'est bien chanté, vous vous régalez en quelque sorte, mais pensez que la Sainte Vierge est encore bien plus heureuse que vous. La Sainte Vierge est ravie d'entendre ses enfants lui dire « Illos tuos misericordes oculos at nos converte ». Elle doit d'ailleurs, je vous le dirai quand je parlerai de la Sainte Vierge, avoir un petit sourire dans le coin en se disant « Mes enfants, comme vous avez raison de me chanter cela, mais entre parenthèses, vous savez, je n'attends pas que vous me le disiez pour tourner vers vous mes yeux pleins de miséricorde. » Vous savez que toute notre prière est obligée d'utiliser un langage symbolique assez curieux. Quand vous dites par exemple dans la liturgie « Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde », le Seigneur pourrait vous répondre immédiatement « Mon enfant, je ne fais que cela hein. ». Mais enfin, tu as raison de me le dire, tu reprends le langage des psaumes. « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » Mais mon enfant, j'écoute le moindre de tes balbutiements, ne crie pas si fort. Mais vous avez tout à fait raison de le chanter à tue-tête et même à plusieurs voix. Donc, prendre un bon départ et ensuite faire de toute la messe un dialogue avec le Seigneur. Je viens de le dire pour la première partie, et c'est encore aussi important dans la seconde partie de la messe, où, suivant les jours, vous vivez davantage votre liturgie eucharistique que les mains en creux ou les mains levées. Vous avez déjà repéré cela. Tantôt, vous vivez la prière eucharistique, les mains en creux, « Seigneur, viens, que ton règne vienne. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Seigneur, l'Église a besoin de toi, renouvelle-la dans sa foi et dans sa charité. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, viens me sauver. Viens, c'est le désir de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi. Vivement que ce pain et ce vin soient transformés au corps et au sang du Christ pour qu'en les recevant, je sois inondé de l'Esprit Saint dont ils sont eux-mêmes tout remplis. Et puis, il y a d'autres jours où je suis davantage attentif à l'autre mouvement de la prière eucharistique, à l'Eucharistie proprement dite, à l'action de grâce. Seigneur, j'ai envie de te chanter. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à te demander, mais j'ai envie de te dire que tu es beau, que tu es grand, que tu es formidable, que tu es le seul Dieu, Sanctus, Sanctus, Père. Tu n'es que Père, que ton nom de Père soit sanctifié, que tous les hommes te chantent. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire dans l'élan de l'Esprit-Saint. Alors votre prière à ce moment-là, oh, elle n'est pas plus belle que celle de tout à l'heure, elle est davantage les mains levées, c'est une prière de louange, c'est davantage un Alléluia. Tâchez de bien repérer que dans votre prière, il y a alternance ainsi entre l'inspire et l'expire, comme disaient les auteurs du Moyen-Âge. Tantôt vous inspirez, tantôt vous expirez, tantôt vous vous ouvrez à l'invasion de l'Esprit-Saint, tantôt dans ce même Esprit-Saint, vous vous jetez en Dieu avec joie. Mais c'est l'Esprit-Saint qui fait les deux mouvements.